Passons au verset Tetvav. Chapitre Yudzaïm, au verset Tetvav. Est-ce que tu as un livre? Très, très bien. Vayomer Elohim el Avraham, Elohim dit Avraham, Sarah ishtecha lo tikra et shema, Sarah ki Sarah shema, Sarah est ta femme, ne l'appelle plus Sarai, car Sarah est son nom. On avait étudié ce que ça voulait dire, qu'en fait elle était toujours Sarah, mais que sa manière d'être Sarah ne pouvait pas se manifester tant qu'Avraham n'était encore pas Avraham. D'accord? Ouverach tiota, je vais la bénir. Vegam natati mena lechaben uverachti avaita legoim alchem mena yu. Je vais te donner d'elle un fils, et je la bénirai, elle deviendra des nations. Les rois de peuples sortiront d'elle. Vous vous rappelez ce que ça voulait dire du point de vue d'Abraham? C'est-à-dire que pour Abraham, l'annonce d'un enfant chez Sarah n'est pas forcément une bonne nouvelle. Vous vous rappelez pourquoi? Non? Alors quoi ça sert que j'enseigne? Mon optimisme du début de cours commence à perdre du terrain. Oui? Du cosmopolitisme. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'Abraham pensait que Ishmaël, c'était la synthèse réussie entre le désir d'Akadosh Baruch Hu de fonder une nation, distinguée des autres nations, distincte des autres nations, et la volonté d'Abraham de faire une religion cosmopolite. Et finalement, Ishmaël représente une nation qui sera fondée en collaboration avec la plus grande des civilisations de l'époque. Donc de ce point de vue-là, Ishmaël est un idéal. Il fait la synthèse entre les deux projets, entre le projet d'Akadosh Baruch Hu et le projet d'Abraham. Parce il pense que la stérilité de Sarah est justifiée. Il se dit, Sarah ne peut pas être à l'origine du peuple, parce que Sarah, elle reste dans la famille. Ça voudrait donc dire être trop restreint, sans relation avec l'universel. Donc il se dit, c'est bien que Sarah n'ait pas d'enfant. Brusquement, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, Sarah va avoir un enfant. Réaction d'Abraham. Vaïpol, Abraham, Alpana, Vaïtzrak, Abraham tomba sur sa face et ria. Pourquoi est-ce qu'il a ri? Il se disait en son cœur, Alven Meashana Yivaled, est-ce qu'un centenaire peut avoir un enfant? Vim Sarah Batishim Shana Teled, et Sarah qui a 90 ans peut enfanter. Ça veut dire donc que Abraham a ici une sorte d'espoir que ça ne marchera pas. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit juste après, Vayomer Avraham Ela Elohim. C'est pour ça que Avraham dit à Elohim, Lou Ishmael Yichye Lefanecha, puisse Ishmael vivre devant toi. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'ai déjà donné, je suis satisfait d'Ishmael, c'est lui que je veux. Vayomer Elohim. Et alors Elohim lui répondit, Aval, mais en vérité, Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Sarah, ta femme, va enfanter pour toi un fils. C'est-à-dire, ne pense pas que ça se passera pas. Ça se passera. Vekarata et shemo Yitzhak, et tu lui donneras comme nom le rieur. À cause de ton rire. Vakimoti et beriti ito, livrit rolam les aroa harav, et c'est avec lui que j'accomplirai mon alliance. En alliance perpétuelle et pour sa descendance après lui. Ulishmael, quant à Ishmael, Shema Aticha, je t'ai entendu, c'est-à-dire je vais exaucer ta prière. C'est-à-dire que la réussite d'Ishmael est le fruit de l'intervention d'Abraham, ça ne se serait pas passé si Abraham n'était pas intervenu. Ine berarti oto, voilà, je le bénis. Vifretioto, je vais le rendre fructifié. Je vais le fructifier. Virbetioto, et le rendre abondant. Bimod meod, beaucoup, beaucoup. Shnemasar nesim yolid, 12 princes il engendrera. Untativ le Goy Gadol, et je ferai de lui une grande nation. Énorme. Les Émirats, l'Afrique du Nord, la Perse, tout ça. Paris. Vous rendez compte? Tout ça, il donne à Ishmaël. Vedberiti, mais mon alliance, Akim et Yitzhak, je l'accomplirai avec Yitzhak. Asher Teled Lecha Sarah la Moed Azeh Bashana Acheret, que Sarah enfantera pour toi à cette époque, l'année à venir. Oui?
Le nom de Ishmaël, il y a ça aussi que. Est-ce que Dieu, il entend.
Oui? Mais bien sûr. C'est-à-dire, ça reprend plusieurs fois, il y a une redondance du terme Ishmaël. Oui? Hein? Il y avait 12 tribus, il y a 12 tribus d'Ishmaël.
Il y a 12 tribus d'Ishmaël?
Oui.
Connues aujourd'hui?
Elles sont écrites à la fin de la paracha de Toldot, au chapitre Kafvav. Non, pardon. Au chapitre. Non, pas Kafvav, pas du tout, pas du tout. Dans la paracha de Chaye Sarah, au chapitre Kafhe, au verset Yud Gimel. Vele Shemot Bene Ishmael, voici les noms des fils d'Ishmaël, Bishmotam et Toldotam, selon leurs noms et leurs engendrements. Bechor Ishmael, l'aîné de Ishmaël, Nevayot. Vekedar, c'est-à-dire Ekedar, Veadbeel, c'est-à-dire Eadbeel, Umifsam et Mifsam. Umishma, Veduma, Umasa, Hadad, Vetema, Yetur, Nafish, Vakedma. Ça en fait donc 12. Et donc, c'est les origines des 12 tribus d'Ishmaël qui ont donné par la suite une multitude. Mais ce que j'aimerais comprendre ici, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il donne à Ishmaël, qu'est-ce qu'il donne à Yitzhak?
Ishmaël, il donne la bracha.
Quelle bracha?
La multitude.
La multitude. L'alliance. Très bien. Vous vous rappelez du verset bête? C'est vrai que c'est dans un autre cours, mais peut-être que vous vous en rappelez quand même. Regardez au verset bête. Oui. Vetena beriti beni uvenecha, verve otra bimod meod. Je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te rendrai très abondant. Comment ça s'est réalisé? Les deux fils. Celui qui reçoit l'alliance, c'est Yitzhak, celui qui reçoit la multitude, c'est Ishmaël. Bimod meod. Vous avez vu qu'il y a écrit bimod meod? Au lieu de meod meod?
C'est.
Le bim od meod, c'est pour que ça fasse en gematria Muhammad.
Non.
Absolument.
Et
bim od meod, ça fait Muhammad en gematria. Comment? Oui, mais bim od meod, c'est nouveau. C'est ça? C'est-à-dire qu'il y a ici, hein? Dans la paracha de Shemot? Oui? Non, là-bas, ça ne représente pas Ishmael. Mais Bimod Mod, c'est en Gematria Ishmael quand même. Et c'est en Gematria Muhammad quand même. C'est-à-dire que la Torah, disons, prédestine une certaine manifestation de la bénédiction divine dans le monde à travers Bimod Mod. N'est-ce pas?
Quoi, il était
prophète? Quoi, Muhammad? Nah, n'exagérons rien.
Il continue à chanter, vous l'avez dit?
Oui. Oui. Mais en tout cas, ça veut dire que quelque chose qui se passe, une bénédiction qui est donnée à Ishmaël. Maintenant. Oui.
Pourquoi est-ce que Hachem s'adresse à Abraham en tant que bénédiction? Parce qu'il maintient l'alliance.
Parce qu'il n'est pas encore circoncis. À ce moment-là. Oui, mais c'est avant qu'il ait la mitzvah d'être circoncis. Là, il a la mitzvah, mais il ne l'a pas encore fait. Donc, il y a un manque. Et donc, il y a ici quelque chose qu'a fait Abraham, qui a divisé son patrimoine en deux options différentes. L'option de l'alliance et l'option de la multitude. Ça aurait pu être par la même personne, mais c'est à cause d'Abraham, c'est devenu deux. Maintenant, une chose importante. Pour réaliser l'alliance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une terre. Il faut des enfants, c'est vrai, et il faut une terre, puisque l'alliance porte sur la terre, comme on l'a vu, c'est écrit en toutes lettres au verset Chet. Pour faire la multitude, c'est-à-dire la diffusion à grande échelle de l'enseignement d'Abraham, est-ce qu'on a besoin d'une terre?
Universelle.
Non seulement on n'a pas besoin d'une terre, mais une terre contredit L'enracinement qu'il y a dans la terre contredit cette idée-là. Ce qui vous explique que bien que aussi Yitzhak et Ishmael sont tous les deux fils d'Abraham, l'un reçoit la terre et l'autre ne la reçoit pas. Parce que Yitzhak a besoin de la terre pour réaliser l'alliance. Ça se réalise au niveau d'une communauté nationale. Tandis que Ishmael, son truc, son dada, c'est la multitude. Donc au contraire, il doit être en dehors de la terre.
Mais c'est-à-dire qu'Yitzhak doit soutenir Ishmael dans...
Ils peuvent agir ensemble.
Dans cette progression.
Oui, dans la mesure où Ishmael ne veut pas prendre la place d'Yitzhak. C'est-à-dire s'ils sont capables de parler, ça marche. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été capables de parler. On ne voit jamais dans la Torah un seul mot échangé entre Yitzhak et Ishmael.
Alors,
jamais. C'est-à-dire que la rivalité ne se règle pas par le dialogue. Comment ?
Alors, puis on a des paroles échangées entre Yaakov et Esav.
Entre Yaakov et Esav, ça parle beaucoup. Ça parle même violent, mais ça parle. Tandis qu'entre Yitzhak et Ishmael, il n'y a pas de parole. Vous savez pourquoi ? Parce que pour Ishmael, s'il parle à Yitzhak, même pour lui dire des gros mots, mais s'il parle à Yitzhak, il a reconnu son existence. Et donc, ipso facto, il redevient fils de servante. Et donc, il doit nier l'existence d'Yitzhak. Il y avait un député à la Knesset du nom de Azmi Bchara. Aujourd'hui, il a pris la fuite parce qu'il est... il est convaincu d'espionnage pour les ennemis d'Israël. Donc il a perdu sa place à la Knesset. Ça a mis du temps jusqu'à ce qu'on lui supprime également sa pension d'ancien Haver Knesset. Mais enfin, toujours dire que ce Azmi Bchara, quand il était membre de la Knesset, s'est fait interviewer par un journaliste israélien. Le journaliste israélien, je dirais presque un pléonasme, est naïf. Et il interroge Azmi Bchara qui lui dit... Sans sourciller, bien sûr, le peuple juif, ça n'existe pas, c'est une invention des sionistes. Le peuple juif, ça n'existe pas, c'est une invention des sionistes. Alors, le journaliste israélien, un peu comme ça, paf, il dit, mais enfin, il y a quand même un peuple juif. Mais non, tout le monde sait très bien que c'est une invention. Et le journaliste israélien ne comprenait pas qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. Mais c'est évident, parce que pour Ishmael, Yitzhak n'existe pas. Donc on ne peut pas discuter avec lui. On est prêt même à recevoir un État sur le territoire d'Yitzhak, à recevoir un État sur le territoire d'Yitzhak, à la condition que cet État soit donné par la communauté internationale et pas par Israël. Ce qui explique beaucoup de problèmes qui ont l'air absolument absurdes dans les relations israélo-palestiniennes. C'est-à-dire les Arabes diraient Israël veulent un État, mais surtout qu'il ne soit pas donné par Israël. Parce que ça voudrait dire la reconnaissance de l'existence d'Yitzhak. Vous comprenez, ça racine très profondément.
Ils ont refusé pour le partage de 47.
Oui, bien sûr qu'ils ont refusé. Ils l'ont refusé, après ils se sont mordus les doigts, parce que c'était l'occasion de recevoir un État par la communauté internationale, justement. Mais maintenant qu'il est question que cet État leur soit donné par les Juifs, alors là, ça ne va pas.
Pourquoi ils ont refusé à l'époque ?
Ils ont refusé à l'époque parce qu'ils étaient bêtes, quoi. Voilà. 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 Bon, aujourd'hui aussi d'ailleurs. Aujourd'hui ils veulent tout. Bon, donc en tout cas, ça veut dire que dans le projet d'Abraham, il y a deux branches, une branche de l'alliance et une branche de la diffusion. Ça pourrait s'arranger s'ils étaient capables de parler, mais ils ne parlent pas. Non, ça peut s'arranger. Le Midrash nous dit qu'Ishmaël a fait Teshuva à la fin de sa vie. Mais comment il a fait Teshuva ? Il l'a fait lors de l'enterrement d'Abraham à Hebron, lorsque Ishmael laisse passer Yitzhak devant lui. Et ça veut donc dire qu'à Hebron, il se soumet à Yitzhak. Or, il s'est passé quelque chose d'assez surprenant depuis la guerre de 67, entre autres, plus précisément, c'est que c'est la première fois dans l'histoire qu'Ishmael vit un exil. Oui, il est dominé par quelqu'un d'autre. Oui, mais il est en exil sous la domination d'Yitzhak. Alors peut-être que quelque chose peut changer à travers ça. Bon, on ne voit pas très bien encore comment, mais sait-on jamais. Pour l'instant, il lance des pierres et même plus.
En Espagne aussi, il est en exil.
Oui, effectivement, ça aussi. Bon, mais pas chez Israël. Bon, je reprends ici le texte au verset Kaf Aleph. Veit Beriti Akim et Yitzhak. Quant à mon alliance, je la fonderai avec Yitzhak. Asher Teled Lecha Sara la Moedazé. Que Sarah enfantera pour toi à cette époque. Bashana Haacheret, dans l'autre année, c'est-à-dire l'année prochaine. Vayechal Ledaberito, il cessa de parler avec lui. Vaya'al Elohim al Avraham, Elohim monta d'au-dessus d'Abraham. Comment comprendre ce texte? Il cessa de parler avec lui, il monta au-dessus de lui. Il y a ici, disons, vous allez dire que c'est subjectif, mais je ressens ici comme une sorte de colère. Il est fâché. Tu as demandé pour Ishmaël. Bon, tu vas le recevoir, mais sache que l'alliance sera avec Yitzhak et je m'en vais. Il ne lui laisse même pas répondre. On peut dire qu'il y a ici une sorte de réprimande. Peut-être. Certains commentateurs disent que non. Ce n'est pas une réprimande, c'est que la révélation doit cesser pour qu'Abraham puisse se circoncire. Ça ne se fait pas de se circoncire en pleine révélation. D'accord ? J'en sais rien, regardons le verset d'après. Vaïkar Abraham et Ishmael Beno, et alors Abraham prit Ishmael son fils. Vet kol yilide beto, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison. Vet kol miknat kaspo, tout ce qu'il avait acquis de son argent. Kol zahar ben shevet Abraham, tout mâle parmi les hommes de la maison d'Abraham. Vayamol et besar olatam, il circoncit la chair de leur prépuce. Be'etzem ayomazé, au sein de ce jour même, Kaasher Diberito Elohim, comme Elohim lui avait dit. Donc le verset d'après parle de la circoncision. Oui, c'est effectivement. Ve Avraham, Bentishim, Vatesh Hashana, Beimolo, Besarolato. Or Avraham avait 99 ans lorsqu'il a circoncis la chair de son prépuce. Ve Ishmael Beno, Ben Shlosh Esrechana, Beimolo, Besarolato. Ishmael, son fils, avait 13 ans lorsqu'il circoncis la chair de son prépuce. Be'etzem Ayomazenimol, Avraham, Ishmael Bano. En ce jour même, Abraham a été circoncis ainsi qu'Ishmael son fils, et tous les hommes de sa maison, nés dans sa maison, ou Miknat Kesef, ou acquis par argent, Meet Ben Nechar, d'un étranger, ni Moluito, ont été circoncis avec lui, Vayera et la Vachem, et alors Yudke Vavke lui a parlé. Si on passe de Elohim, qui revient de manière répétée dans le chapitre Yudzaïn, une fois que la circoncision est faite, alors se manifeste à lui Hachem.
Le commentaire qui dit qu'il recevait la prophétie par ça, il est valable.
Possible. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que la Gemara dit que Sarah était plus grande qu'Abraham en prophétie. C'est ça qui est écrit en toutes lettres. Le reste, je ne sais pas. Donc vous comprenez que Vayera et Lav Hachem, c'est le fruit de la circoncision. Alors là, on passe à quelque chose d'autre.
Oui. Ishmael et Yitzhak, ils ne croient pas en même Dieu, alors.
Certaines manières, oui, effectivement.
Ishmael, il croit en Elohim, et Yitzhak, il croit en Hachem.
Certaines manières, oui. Maintenant, remarquez, avec qui Elohim parlait jusqu'à présent ? Avec Abraham, n'est-ce pas ? Vérifions un peu. Regardez à nouveau dans le chapitre Yudzaïn, au verset Gimel. Vaïpol Avram Alpanav, Avram tomba sur sa face, Vaïdaber Ito Elohim les morts, Elohim parla avec lui. C'est quoi Ito, donc avec Avram. Regardez au verset Tête. Vayomer Elohim El Avraham. Elohim dit à Avraham. Au verset Tête Vav. Vayomer Elohim El Avraham. Donc à qui il parle ? À Avraham. Verset Yutet, Vayomer Elohim. Il n'y a pas écrit Abraham, mais il n'y a pas non plus autre chose. Il n'y a pas écrit autre chose. Verset Kafbet, Vayechal Edaberito, il cessa de parler avec lui. Vayal Elohim, Meal Abraham. Elohim monta d'au-dessus d'Abraham. Donc, aussi bien que nous avons une répétition du mot Elohim, nous avons une répétition du mot Abraham. Maintenant, dans la révélation d'Hachem, regardez au chapitre Yutret. Vayera, et là, Hachem. Et Hachem lui apparut. À qui ?
À lui.
à lui. Il n'y a pas écrit à qui. N'est-ce pas? Vehu, et lui. Yoshev était installé, Petachaoel, à l'entrée de la tente, Kechom Ayom, lors de la chaleur du jour. Vaïssa ena vayar, il leva les yeux et il vit. Vine shlosha anashim, et voilà trois hommes, nitzavim alav, debout auprès de lui. Vayar, il vit, vayar otsi kratam pitachoel vayishtachu arza, il courut à leur rencontre de l'entrée de la tente et il se prosterna à terre. Vayomar, il dit. Vous voyez que ici, c'est à dessein. Autant dans le chapitre Yudzaïn, le nom d'Abraham est apparent, autant dans le chapitre Yutré, il est absent. Vayoma, il dit, Adonai, Seigneur, imna matzatichen be'anecha, si j'ai seulement trouvé grâce à tes yeux, alnata avor malavdecha, ne passe pas d'au-delà, d'auprès de ton serviteur, yukarna me'at ma'im, que soit pris un peu d'eau, verachatsur aglechem, lavez vos pieds, vishanu tachataetz, installez-vous auprès de l'arbre. Je prendrai du pain pour rassasier votre cœur. Après vous passerez. Car c'est bien pour cela que vous êtes passé auprès de votre serviteur. Vayomiru, ils dirent, Kenta ase kasher dibarta, ainsi tu feras, comme tu l'as dit. Donc pendant cinq versets, alors qu'on attendrait, on s'attendrait à voir le nom d'Abraham, Abraham est absent. Verset Vav, Vayemaher Avraham. Et Avraham s'empressa. Brusquement, Avraham revient. C'est certainement pas dénué de sens. N'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? À qui Hachem s'est-il révélé? On a dit donc à lui. Non, justement pas. À lui. J'en sais rien. Je pense que si c'est lui, alors c'est lui. Par exemple, dans le Zohar, on pose la question de savoir qui sont les trois hommes qu'Abraham a vus, enfin que lui a vus, pardon. Vous savez qui sont les trois hommes d'après le Zohar? D'après le Zohar, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Hein?
Ah. Non, c'est lui qui les voit. Je ne sais pas. Lui, mais il voit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yitzhak n'est pas encore né, et Yaakov est encore loin d'exister, et Abraham c'est probablement lui. C'est bizarre ce que dit le Zohar. C'est comme si en fait ce qui apparaissait là à lui, c'est une sorte de vision au-delà de l'histoire, métahistorique. Il voit l'engendrement d'Israël. Je sais pas si c'est comme Moshe, mais en tout cas il voit l'engendrement d'Israël. Il voit à l'avance, puisque il a fait la circoncision, Abraham a fait la circoncision, alors maintenant donc apparaît le Dieu de la promesse historique, celui qui va être le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et qu'est-ce qu'il en est d'Abraham, l'individu, dans cette histoire? Il est effacé. Il est englouti dans la vision. Vous connaissez, par exemple, dans le livre de Vayikra, c'est beaucoup plus loin, il est question, dans la paracha de Aharemot, des cérémonies dans le temple du Kohen Gadol à Kippour. N'est-ce pas? À nouveau, là-bas, le texte est extrêmement surprenant. Il y a une répétition presque obsessionnelle du mot Aharon. Aharon fera comme ça, Aharon fera comme ça, Aharon fera comme ça. Et après, on dit, et il entrera dans le Kodesh HaKodashim. Aharon disparaît. Non seulement il disparaît, mais le texte dit quelque chose d'absolument incroyable. Vechol Adam, lo yé boel moed, bevo le chaper bakodesh atzeto. Il n'y aura aucun homme dans la tente d'assignation lorsqu'il rentrera pour expier dans le lieu saint jusqu'à ce qu'il sorte. Comment ça, il n'y aura aucun homme? Il y a au moins Aaron lui-même. Ça veut dire que quand Aaron rentre à l'intérieur, eh bien Aaron disparaît. Après, il y a écrit « Veyatza Aaron » et Aaron sortira. Donc, c'est-à-dire que l'expérience de l'entrée dans le Kodesh HaKodashim, c'est une sorte d'annihilation de l'être, une expérience mystique qui me fait disparaître. On peut dire c'est exactement ce qui se passe chez Abraham. Oui, mais il risque d'oublier le peuple. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on lui a attaché une corde à la cheville. Pourquoi faire? Non. pour qu'il n'oublie pas de revenir. Pour qu'il n'oublie pas. C'est-à-dire pour qu'il se sente rattaché. C'est la version hébraïque du fil d'Ariane. Vous connaissez ça dans le labyrinthe, là, d'Adal et Icar. Et Ariane qui est livrée au Minotaure et qui sort parce qu'elle a un fil. Et bien c'est un peu la même chose. On rentre dans le Kodesh HaKodashim, on risque de ne plus vouloir revenir. Alors il y a une corde qui dit, nous, ne nous oublie pas, on t'a envoyé là-bas, pas pour toi, mais pas pour toi-même et pour nous. D'accord ? La tentation du Kohen Gadol. C'est écrit où cette histoire de corde ? Non. Dans Maaseret Yoma, c'est pas écrit. Comment tu dis ? Non, c'est pas dans Yoma. C'est pas dans le Talmud. Dans le Zohar. D'accord ? Hein ? Bien sûr, c'est pour ça que je me la joue, quoi. C'est-à-dire, je fais exprès de poser des questions comme ça. C'est une sorte de plaisir malin. Et donc, le Kohen Gadol entre et il doit revenir. C'est seulement ce qui se passe avec Abraham. Oui. Alors, lui, ben, c'est ce qui reste d'Abraham, pourrait-on dire. C'est celui qui peut ressusciter comme Abraham. Oui. Il est annihilé à sa neshama. Mais regardons un peu plus profondément. Je reprends. Oui.
Normalement, cette expérience, elle n'est pas propre à l'endroit du Kodesh HaKodashim.
Si, c'est propre au Kodesh HaKodashim. Donc Abraham était dans le Kodesh HaKodashim intérieur de son être. Parce que chaque homme est un temple. Donc dans chaque homme, il y a un Kodesh HaKodashim. Il est arrivé à l'intérieur de son intérieur. C'est dans le cas d'Abraham, non. Mais on va voir que ça s'est passé pas n'importe où. Ça s'est passé à Eloné Mamré. Il y a une raison à ça. D'accord ? Mais non, je reprends ici donc le verset Aleph. Chapitre Yutred, verset Aleph. Vaïra Elav Hashem. Et Dieu lui apparut. Est-ce que ce verset ne vous rappelle pas quelque chose de qui rend ce verset problématique ? Vaïra Elav Hashem. L'Oirani Adam Vahai. L'homme ne peut pas me voir de son vivant. Ça veut donc dire qu'il n'était pas vivant. Comme il n'était plus vivant, la question ne se posait pas.
Ou il n'était plus homme.
Il n'est plus homme. Voilà, donc en tout cas, c'est-à-dire que il y a dans la Madriga des Avot quelque chose qui dépasse la vie, qui est dans l'éternité, et donc. Le problème de l'Oirani Adam Vahai ne se pose pas pour eux. Mais maintenant, il y a un petit problème. Pourquoi est-ce que ce sont les Avot qui ont mérité ça ? Parce que vous savez que ce verset, l'événement qui se passe dans ce verset, est cité dans le livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, dans la paracha de Va'era, Dieu dit à Moshe, Va'era el Avraham, et j'apparus à Avraham. N'est-ce pas ? Je suis apparu à Avraham. Donc il se réfère à cet événement-là. Oui, justement. Vaera et l'Avraham, et l'Itsrak et Yaakov. J'apparus à Avraham, à Itsrak et à Yaakov, be El Shaddai en tant que El Shaddai, ou Shmi Hashem l'onodarti lahem, et mon nom Hashem, je ne l'aurais pas fait connaître. Or, il y a écrit ici Hashem. Surtout que dans le verset juste avant, il y a écrit Vaidaber Elohim el Moshe, Elohim parla à Moshe, Vayomer Elav, et il lui dit Ani Hashem, je suis Hashem, Vaera et je suis apparu. En tant que El Shaddai. Non, mais c'est Hachem qui est apparu en tant que El Shaddai. Il y a quelque chose qui cloche dans ce verset. Je vais compliquer la chose. Donc vous tenez le coup là pour l'instant ? Accrochez-vous. Hein ? Accrochez-vous. Rashi, dans le commentaire sur Shemot, sur le verset Vaera el Avraham el Yitzhak ve'al Yaakov, je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rashi commente Vaera, je suis apparu el Ha'avot aux ancêtres. Au patriarche. Génial ce Rashi. Le verset nous dit que Dieu est apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Rashi explique au Avot. Génial. C'est-à-dire, il y a un grand principe que j'ai appris de mes maîtres, c'est que plus Rashi dit une chose banale, plus c'est profond. Or là, c'est du banal au carré. N'est-ce pas ? C'est comme si on ne savait pas qu'Abraham, Israël et Yaakov étaient les Avot. Un principe qui est très important pour comprendre ce que dit Rashi, c'est ce qu'on appelle la question « Mahaya caché les Rashi ». Qu'est-ce qui était difficile pour Rashi, qui fait qu'il a écrit ce qu'il a écrit ? Ce qui était difficile pour Rachid dans ce cas, c'était le mot Vaera. En quoi le mot Vaera est-il difficile? Ça contredit le Irani Adam Vachai. Réponse de Rachid, parce que c'était les Avot. Comme ils étaient des Avot, la question ne se posait pas. Mais pourquoi est-ce qu'en tant que Avot, il aurait pu dire, comme c'était quelqu'un d'extraordinaire Abraham, qui était un grand sadique, mais Rachid a préféré insister sur le fait qu'ils étaient des Avot. Alors c'est quoi des Avot? Hein? Oui. Une seconde, on va tout de suite y arriver. C'est quoi être des Avot? D'avoir des fils. N'est-ce pas? Quand on dit celui-là, c'est le père de celui-là. Par exemple, je dis, vous voyez, Georges, c'est le père d'Albert. Qui est important? Le père ou le fils? Si je définis le père par rapport à son fils, et donc c'est le fils qui est important. Donc être des avot, ça veut dire accepter de vivre en fonction d'une promesse qui ne se réalisera que chez les enfants. Et pas chez soi-même. C'est donc un don total de soi. C'est-à-dire, il y a une promesse, mais elle n'est pas pour moi. Elle est pour mes enfants. C'est ça, accepter d'être des avot. Ce qu'on appelle le zechut avot, le mérite qu'ils ont eu d'être des avot. Oui, c'est ça, bien sûr. Par rapport à nous, nous avons beaucoup d'humilité. Mais qu'est-ce que c'est pour eux d'être des avot? C'est être les avot des enfants. Soit dit en passant dans la Amida, tu dis, Umevi Goel, Livne Benehem, qui amène un sauveur pour les fils de leurs fils. Hein, pas pour eux. Et donc, ça veut dire que, maintenant, qu'est-ce qui est important dans la vie? La promesse ou la réalisation? La réalisation. Donc celui qui ne vit que de la promesse ne vit pas. Donc il n'y a pas de problème de l'Oirani Adam Vachai, que l'homme ne peut pas me voir de son vivant puisqu'il ne vivait pas, puisqu'ils étaient des avotes. Or à quel moment Abraham est-il devenu un des avotes? Après la circoncision. Parce qu'il se prépare à l'alliance de l'engendrement. Donc c'est à ce moment-là qu'il mérite Vaïra et Lavachem. C'est pour ça qu'à ce moment-là il disparaît justement, il n'est pas vivant. C'est pour ça que son nom n'apparaît pas. Ça répond à la question du lui. Tout est clair maintenant? Génial. Vaïra et Lav Hachem. Donc Hachem lui a apparu. Beloné Mamré. Traduction du rabbinat. Dans les plaines de Mamré. Mamré. M-A-M-B-R-E accent aigu. C'est à cause de la version des Septante. D'accord? Dans la plus ancienne traduction de la Torah, qui s'est faite en grec à l'époque de Ptolémée II Philadelphe, Alexandrie, il a fait la version des Septante, la traduction des Septante, c'est-à-dire des 72 sages Septuaginta, qui ont traduit la Torah en grec, et depuis les orthographes de cette époque sont passés au latin et au français et tout le reste. D'accord? Donc vous avez les plaines de Mamré. Par exemple, Terah, le père d'Abraham, est appelé dans la version des Septante, Taré. Donc nous sommes tous des fils de Taré, par exemple. C'est ça que ça veut dire. D'accord? C'est écrit en toutes lettres dans la version des Septante. Donc je reviens ici. Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré. Dans les traductions en français du rabbinat, Mamré. Qui est ce Mamré? Vous voyez, c'est un type extrêmement important. Il apparaît dans le verset qui parle de la révélation de la plus haute d'Abraham. Hein? Qui? Je demande, est-ce que c'est une personne, par exemple? C'était quoi? Un des alliés d'Abraham, lors de la guerre qu'il avait faite contre Kedor Laomer, on a vu qu'il avait trois alliés qui sont Aner, Eshkol et Mamré. Donc Mamré est un homme. Il y a un personnage qui s'appelle Mamré, qui est un allié d'Abraham, et c'est dans son territoire que se fait la révélation. Pourquoi est-ce que pas toujours la Torah nous dit à qui appartenait l'endroit où Abraham prophétisait? Donc si on nous a dit son nom par rapport à cet endroit, c'est que Mamré est important. Alors d'après le Midrash, c'est Mamré qui a conseillé à Abraham de faire la circoncision. Il était médecin. Et c'est lui qui a recommandé à Abraham de faire la circoncision. C'est incroyable cette histoire. Comment ça il a recommandé de faire la circoncision? Quand on demande pourquoi est-ce qu'Abraham a fait la circoncision, Parce que Dieu lui a dit, non? Brusquement, on a fait intervenir ici un goy, et c'est lui qui a eu l'idée de la circoncision. Ça tient pas la tête, ça tient pas la route. Alors, vous avez par exemple dans le Siftei Chachamim, vous avez huit tentatives de donner une réponse. C'est-à-dire comme si la question était, est-ce que je le fais en public ou est-ce que je le fais discrètement? Est-ce que j'attends tant de temps, etc. Mais enfin, les commentateurs ont été extrêmement embêtés par cette remarque des Chachamim que Mamré a été celui qui a conseillé de faire la circoncision. Mais en vérité, c'est tout simple. Mamré a eu l'idée de faire la circoncision, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a un moment dans l'histoire de la civilisation cananéenne où les Cananéens commencent à se dire, ça serait bien de faire la circoncision. Pourquoi ? Pas pour des problèmes médicaux, pour des problèmes moraux. Les Cananéens, ils étaient connus comme quoi, d'après la Torah ? Qu'est-ce que la Torah nous raconte des Cananéens ? Idolâtres et puis ? Et débauchés. N'est-ce pas ? L'inceste, c'est eux, c'est pratiqué. Quand la Torah nous interdit toutes les abominations de Canaan, elle dit, ne faites pas comme les Cananéens. Ça veut donc dire que les Cananéens comprenaient très bien que leur société était malade. Parmi eux, il y avait des tzadikim. Mamré, qui s'est dit, il faudrait faire quelque chose pour réduire le désir sexuel. Donc, il faut faire la circoncision. Ça, c'est ce qu'on appelle le rationnel qu'il y a derrière la circoncision en tant qu'acte cultuel ou rituel. Indépendamment du fait que c'est une alliance sur Eretz Israël, comme on l'a dit dans le dernier cours. Et donc, à partir du moment où l'humanité est prête à cette idée-là, c'est là qu'intervient la mitzvah. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je t'ordonne de faire la circoncision. Il y a souvent donc une sorte de conjonction entre le développement de l'humanité et l'apparition de la mitzvah. Vous comprenez ?
Mais en quoi ça réduit le désir sexuel ?
Ah ben c'est un fait médical. Oui, comment ? Bah, peut-être qu'ils y ont pensé, et ils ont peut-être vérifié, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette idée-là, donc, et c'est Maïmonide également qui ramène ça, Maïmonide était médecin lui aussi, il dit qu'effectivement, le prépuce entraîne un trop grand attachement au désir sexuel, et donc la Torah nous a dit de réduire ce désir par la circoncision. N'est-ce pas ? Et ce qui permet donc de surmonter la nature, la morale peut surmonter la nature. Et donc Mamré, qui n'est pas un imbécile, y pense. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la mitzvah. Oui ?
C'est indirectement qu'il a dit avoir.
Peut-être qu'il lui a recommandé, il lui a dit, c'est une idée, j'ai une bonne idée pour toi, viens faire, tu devrais faire la circoncision. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, je veux que tu fasses la circoncision. Est-ce que c'était 5 minutes plus tard, 4 jours plus tard ? J'en sais rien. Mais ça veut dire qu'il y a souvent une adaptation de l'état du monde à l'apparition de la volonté de Dieu. On peut amener des preuves de ça d'ailleurs dans plusieurs endroits, mais enfin, ça nous suffit pour l'instant. Vaïra et la Vachem Belone Mamré. C'est vrai pour tous les 613 mitzvot. C'est vrai pour tous les 613 mitzvot, mais il faudrait le prouver. C'est un travail qu'il faut faire, mais on peut le prouver. Oui ?
Vous avez dit quoi ? Elon Mamré, c'est dans les champs de Mamré ?
Non, dans les plaines. Il y a un arbre qu'on appelle Alon, le chêne. Ça veut dire qu'on dit Aloné. Et là, c'est Eloné. Et d'après Onkelos, Eloné, ça veut dire les plaines. Surtout qu'il n'y a pas énormément de chênes dans la région de Hebron. Les chênes, c'est plutôt dans la région de Jérusalem, en Galilée. Dans la région de Hebron, non. Non, pas vraiment. Bon. Vaïra elav Hashem Eloné Mamré. Vehu Yoshev, et il était installé. Petach ha'ohel kechom hayom, à l'entrée de la tente, au début, lors de la chaleur du jour. Donc, quelle heure était-il ?
Midi.
D'accord ? Donc, tout ce qui se passe à partir de maintenant, c'est quand ? C'est l'après-midi. L'après-midi, c'est pas le matin. Le matin, c'est le moment où le soleil monte. L'après-midi, c'est le moment où le soleil descend. Donc tout ce qui se passe maintenant, c'est dans le soleil descendant. C'est l'heure de la prière de Mincha, instituée par Yitzhak Avinu. Et jusqu'à présent, toute la paracha de Lech Lecha nous parle d'Abraham. Et là, dans la paracha de Vayera, c'est Abraham qui se prépare à voir Yitzhak. C'est le problème de la relation d'Abraham à ce que représente Yitzhak. Vous vous rappelez qu'Abraham était tout charité, n'est-ce pas? Yitzhak est tout din, rigueur. Et là, c'est l'intégration de la rigueur par celui qui est susceptible de charité. C'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. Donc toute la confrontation maintenant d'Abraham avec Yitzhak commence à partir de ce premier verset et s'achève à la fin du dernier verset de Vayera. D'accord ? C'est pour ça que c'est une nouvelle paracha. Est-ce que là vous me suivez ? Bon. Vayissa Enav. Maintenant, ça se passe comment ça ? Est-ce qu'Abraham est éveillé quand tout ça se passe ou est-ce qu'il est endormi ? C'est une vision, vous dites. Si c'est une vision, donc c'est pas quelque chose qui se fait éveiller. C'est-à-dire que si j'étais présent là-bas, moi, j'aurais rien vu. On aurait eu une caméra. Comment ? Non, c'est-à-dire que qui disparaît ? Est-ce que le corps d'Abraham a disparu à ce moment-là ? J'en sais rien. Mais en tout cas, il est tout à fait possible que pour un observateur extérieur, bah, il aurait vu Abraham endormi, tout simplement. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il voit maintenant ? Vaïssa ena vayar. Il leva les yeux. Et vit. Lever les yeux, c'est-à-dire vers le haut. C'est-à-dire qu'il prophétise. Veine shlosha anashim nitzavim alav, et voici que trois hommes étaient debout auprès de lui. S'ils étaient auprès de lui, donc il n'avait pas besoin de courir à leur rencontre. Et là, il court à leur rencontre, alors qu'ils étaient auprès de lui. Dans un rêve, tout est possible. Oui. Quand tu rêves, tu penses que tu as les yeux ouverts, non? Quand tu rêves, tu te vois par exemple en train de faire du kayak, en plein rêve.
Ah oui, donc il s'est vu lever
les yeux. Ouais, donc dans son rêve, il lève les yeux au ciel. Ah oui, voilà. C'était une bonne image le kayak, n'est-ce pas ?
Non, mais j'aime pas le kayak.
On peut prendre d'autres choses, par exemple, il y a les bars comme ça, de Oxford contre Cambridge, tu sais, les équipes comme ça. Ça
oui.
L'avion, voilà, c'est ça, l'avion. Bon, maintenant ça peut être la vie carrée aussi, il y a tout de suite possible. Bon, Vaïssa ena vayar, il leva les yeux et vit. Veine shlosha anashim nitzavim alav, qu'il y avait trois hommes auprès de lui. Il y a au moins six opinions différentes, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais pour l'instant, on va rester dans l'image. Vayar, il vit. Vayar aussi katam petachor et vaishtachor arza, il courut à leur rencontre de l'ouverture de la tente et se prosterna à terre. Il y a ici un acte de générosité d'Abraham qui est bien digne de lui, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qu'ils viennent lui annoncer, Sosa ? Ben, ils viennent lui annoncer, la naissance d'Yitzhak. Ça ? Bon. Oui ? Qu'il s'est prosterné ?
Oui, mais...
Comment est-ce qu'on fait ? La prosternation, Ishtachavaya en hébreu, c'est s'étaler au sol. Il s'allonge complètement en étendant les bras et les jambes. N'est-ce pas ? C'est pas du tout comme la prosternation qu'on voit par exemple chez les musulmans, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Il s'étale au sol. Et ça va Ishtar. Non. Mais quand ils disent, pourquoi est-ce que lui l'a fait ? Lui, il n'est pas concerné par nos halakhot. Oui ? Oui.
Il a accueilli les trois hommes.
Oui.
Les trois hommes, c'est deux hommes dans
le. C'est possible. Si on prend le Zohar, comme quoi c'était Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça tient. Mais ça peut être également trois anges. Interprétation de Rashi, qu'on retrouve également dans le Zohar. Ça peut être tout à fait autre chose aussi. Ça peut être l'interprétation du Ralbag. Le Ralbag. Quand il a vu toutes les interprétations, il en a eu ralbag et il a donné une autre interprétation. Il dit que les trois hommes, c'était, tenez-vous bien, trois hommes. Trois prophètes. D'accord ? Donc tout est possible. En tout cas, Vaimer Abraham Aoela El Sarah. Abraham s'empressa dans la tente chez Sarah. Vaimer, il lui dit, Mahari Shelosh Seimke Marsolet, empresse-toi de faire trois CA. De farine de semoule, l'ushiva assis au goth, pétri et fait des gâteaux. Petite question. Sarah, elle est dans la tente, Abraham court auprès d'elle. Ça se passe quand? Ça, dans la vision ou dans la réalité physique? Bon, savoir, ça peut être l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que Sarah prophétise avec lui. Qu'il se voit parlant avec Sarah dans son rêve.
L'histoire, c'est qu'Abraham
reste à ce moment-là. C'est pour ça que je dis, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça.
S'il sort, c'est-à-dire qu'il y a une interaction.
Oui.
Mais juste par rapport à ce pourquoi il passe du singulier au pluriel?
Ça, c'est Rashi déjà. Qu'il a parlé à la Shekhina, qu'il l'a laissé tomber, qu'il s'est occupé des anges à la place. De là, on apprend dans la Gemara que c'est plus important de recevoir des invités que de recevoir la Shekhina. D'accord? Vela Bakar, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. À moins que le nom de Adonai il se soit adressé à celui qui est central dans les trois personnages. J'ai dit, il y a 6 interprétations différentes. À dessein que je n'entre pas dans le détail parce que ça nous amènerait, ça nous compliquerait la vie beaucoup plus. Bon. Vela Bakar et Avraham. Avraham courut vers le bétail. Vaikar ben Bakar Arvato. Vaiten el anar vaimer la sototo. Il prit un fils de bétail tendre et bon et le donna au serviteur qui s'empressa de le faire. Il abat un bœuf. Et il prend 3 CA. Vous savez combien c'est un CA? Un CA, c'est à peu près 5 litres. Donc il prend 15 litres de farine. Énorme! Vaikar, Hema, Vechalav, il prit du beurre et du lait. Ou Ben Abakar, Asher Asa, et le fils de bétail qu'il avait préparé. Vaiten Lifnehem, il mit devant eux. Donc il leur a donné à manger de la viande, du beurre et du lait. Hein? C'est l'usage chez les Bédouins jusqu'à ce jour, quand on veut honorer quelqu'un, de faire un plat de mouton sur du beurre et du riz. C'est-à-dire on prend le riz, on jette du beurre sur le riz et par-dessus on met le mouton. Il n'y a pas de riz ici, mais en tout cas, c'est l'hospitalité bédouine. N'est-ce pas?
Auquel on ne pourrait pas goûter la
Nous ne pouvons pas goûter, pourquoi?
Parce que du beurre et...
Ah, du beurre et de la viande. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mélanger le beurre et la viande? On a le droit de manger du beurre, on a le droit de manger de la viande. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre ensemble? Ben nous ne sommes pas capables, à notre niveau à nous, de faire l'unité entre deux valeurs morales opposées l'une à l'autre. C'est-à-dire, la viande, c'est de l'assassinat autorisé. N'est-ce pas? Le beurre, c'est du vol autorisé. N'est-ce pas? Mais attention, l'assassinat et le vol, c'est quand même pas le même niveau, on ne peut pas les mettre ensemble. Même si la Torah t'a autorisé de tuer une bête, ou t'a autorisé de voler la bête, il y a une différence de niveau moral. Je ne peux pas mélanger.
Et les goyim, ils sont au niveau?
Non, disons qu'ils ne sont pas concernés par cette exigence. Mais les anges, le monde supérieur, là-bas, tout s'unifie. Donc il leur donne tout à la fois. C'est un travail d'unité, le repas qu'Abraham leur présente.
Donc là, l'explication du Ralbach.
Ah, pour le Ralbach, ça fait autre chose. Et d'ailleurs, de même que ça ne concerne pas l'interprétation qu'a donnée ma petite fille, qui a expliqué qu'en fait, il leur a donné à manger de la viande, et il a attendu plusieurs heures en leur faisant des divrets Torah jusqu'à ce qu'ils puissent manger du lait.
Ou l'inverse,
D'abord le lait, puis ils boivent un verre d'eau.
Oui. C'est pas ce qu'il a écrit. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, si vous y croyez, ça va.
C'est plus rapide parce que.
Ve'u omed alehem tachataet zayochelu. Il était debout auprès d'eux, sous l'arbre, et ils ont mangé. Vous avez vu le mot arbre, comment il est dit en hébreu? Haetz, n'est-ce pas? Regardez ce que dit Rashi. Sur Haetz, dans le verset. Ah, ça c'est incroyable, les éditions ça n'apparaît pas. Effectivement, dans cette édition ça n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, mais. Une des interprétations, dans certaines éditions, au nom de Rashi, il y a écrit Tachat Haetz, Rashi explique Tachat Ha'ilan. Que veut dire le mot ilan? Un arbre. En quelle langue? En araméen. C'est-à-dire le mot etz veut dire un arbre en hébreu. Et il veut dire, et en araméen on dit ilan. Alors Rashi explique tachata etz, il faut lire tachata ilan. À nouveau, quand Rashi dit quelque chose d'extrêmement banal, c'est qu'il veut dire quelque chose d'extrêmement profond.
Mais ilan et etz, c'est pas deux sortes différentes?
Non. Peut-être qu'en hébreu moderne. Mais ilan, en hébreu, en ancien hébreu, c'est un mot d'origine araméenne qui veut dire un arbre. C'est vrai que ilan veut dire un arbre, mais essayons de voir si je ne me suis pas trompé. Le mot etz, il veut dire quoi en hébreu? Un arbre ou bien du bois. C'est-à-dire que Rashi veut dire, ne comprend pas qu'ils se sont assis auprès du bois, d'un morceau de bois, mais qu'ils étaient assis sous un arbre. Pourquoi est-ce que j'aurais pensé qu'ils se sont mis sous un morceau de bois? C'est simplement parce que Rashi veut réfuter ici l'interprétation chrétienne. Pour les chrétiens, tachataet, ça veut dire quoi? Ils sont au pied d'un morceau de bois. Qu'est-ce que tu crois? N'est-ce pas? Et donc, comme ils sont trois, ça figure pour eux leur idolâtrie à eux, leur trinité. Et donc, Rashi, qui n'est pas un ignorant des enseignements chrétiens, il dit attention, quand tu dis tachataet, c'est sous l'arbre. Attention, pourquoi l'arbre maintenant? Alors ça devient plus important, encore plus important. Pourquoi est-ce que la Torah a insisté pour que ce soit un arbre, justement? C'est quoi l'arbre? L'arbre de la vie, effectivement. C'est-à-dire que, tandis qu'il revient au Gan Eden, puisqu'il est dans le monde des anges, donc il se rend compte au pied de l'arbre de la vie. C'est du vivant, pas du mort. C'est un... Il n'y a pas écrit ici. Et alors? Oui? Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il est bénéfique. C'est-à-dire que, contrairement aux idolâtres qui pensent qu'on prend un morceau de bois coupé de la vie, chez nous, on s'abrite au pied d'un arbre vivant. C'est donc tout un abîme théologique qui est entre nous et eux. Et tout ça, Rashi le dit dans un mot. Ilan. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut savoir lire, Rashi. C'est tout pour aujourd'hui. Shalom.